l'été. Bonjour à vous toutes, et vous tous, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une fois de plus M l'été, le magazine qui vous permet de voyager, de faire un tour, de rencontrer plein de gens, vraiment, c'est l'incontournable, à la radio. Alors aujourd'hui, parmi les sujets qui seront diffusé ici, il y aura le Exploramer, un musée présentant les beautés insoupçonnées du Saint-Laurent, dont beaucoup se mangent d'ailleurs. Je vais m'entretenir avec Sandra Gauthier, la directrice générale d'Exploramer, en Gaspésie. Je vais recevoir Sarah Rouleau, responsable communication, marketing, événements spéciaux d'Inca Québec, au sujet d'un nouveau camp d'immersion. Il y aura une chronique littéraire en début de seconde demi-heure que je vais vous présenter, des super bons bouquins à lire. Et puis, en toute fin d'émission, il y aura notre chroniqueur spécialiste en accessibilité et adaptation des immeubles qui viendra nous faire une chronique. Alors, on commencera l'émission par quelques nouvelles. D'abord, offrir un répit aux familles. Une cinquantaine d'enfants malades ont eu la chance de mettre sur pause leur quotidien difficile le temps d'un après-midi, mercredi, au parc La Fontaine. Pour les familles vivant avec un enfant malade, les jours de répit sont peu nombreux entre les rendez-vous à l'hôpital, le regard des autres face à la différence et les tâches du quotidien. C'est pour offrir du bon temps que des activités comme ce pique-nique sont organisées par la Fondation Starlight. Ça donne un break aux parents, affirme Carole Auclair, une mère monoparentale d'un jeune adolescent atteint de dystrophie musculaire Duchenne. « Partout où on va, c'est compliqué », poursuit la mère d'Anthony qui se déplace en fauteuil roulant. « Ça fait une grande différence, ces activités, surtout au niveau du regard des autres, parce qu'ici, toutes les familles vivent des différences », explique José Legault qui accompagnait ses fils. Alexis Leblanc, atteint du syndrome Treacher-Collins, qui se manifeste par des malformations faciales, et Mathis Leblanc. À cause de sa trachéotomie et de ses malformations, partout les gens se retournent sur notre passage. Ça fait du bien de ne pas se sentir jugé lors des activités de Starlight, continue-t-elle. Lors du pique-nique organisé en collaboration avec Nintendo, des dizaines de jeunes ont eu la chance de jouer avec la nouvelle console Switch. Cette activité s'insérait dans le programme Les Grandes Escapades de la Fondation Starlight. Avec cette série d'activités en tout genre, la Fondation, qui vise à mettre du bonheur dans le quotidien d'enfants malades, invite ses membres à vivre des expériences hors du commun. On veut rendre le négatif positif et offrir aux familles de la Fondation la chance de vivre des choses que d'autres ne pourraient pas vivre, explique Ghislain Gagné, le vice-président au service à l'enfance chez Starlight Québec. On fait du bateau, on fait du skidoo adapté et la semaine prochaine, on va faire des tours de voitures de luxe, affirme M. Gagné. Alors cette année, grâce aux grandes escapades, près de 1000 personnes auront entre autres participé à des activités nautiques sur le fleuve Saint-Laurent. Et je peux vous dire qu'au mois d'août, nous allons rencontrer, avoir une entrevue avec M. Gagné de Starlight Québec pour qu'il nous en dise un petit peu plus, sur cette fondation. La détresse silencieuse des proches aidants, épuisés, tristes et en colère, peut-on lire dans Le Devoir face à leur impuissance à soulager la souffrance de leurs proches gravement malades ou en fin de vie. Plusieurs Québécois vivent en silence la détresse de leur statut de proche aidant, tandis que l'enquête préliminaire de Michel Cadotte, accusé d'avoir tué sa femme atteinte d'Alzheimer, s'ouvre mardi. Des experts estiment qu'il faudrait considérer les proches aidants comme des patients lorsqu'ils font le choix d'accompagner un être cher dans sa souffrance. L'histoire de Michel Cadotte est dramatique, mais sans le geste final. Le récit de cet homme est vraiment très typique du parcours d'un proche aidant, souligne Charles Viau-Quesnel, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a mené plusieurs travaux sur les proches aidants. M. Cadotte a admis lors de son témoignage avoir étouffé sa femme qui était hébergée dans un CHSLD le 20 février 2017 parce qu'il n'en pouvait plus. Cette histoire n'est pas une histoire de mourir dans la dignité, mais plutôt de la volonté de vivre dans la dignité. On parle d'une femme qui n'était pas en fin de vie et d'un homme qui tentait de l'aider et qui semblait se sentir impuissant face aux soins offerts à son épouse, Silène, souligne Irène Demsiouk, coordonnatrice générale du regroupement des aidants naturels du Québec. Ce désarroi est toutefois loin d'être unique à la cause de M. Cadotte. Comme regroupement, on ne cautionne pas ce geste, mais on constate nous aussi la détresse décrite par le juge qui est celle de beaucoup de proches aidants. Selon un portrait réalisé par l'organisme L'Appui, qui vient en aide aux proches aidants d'aînés, en 2012, on comptait au Québec 1,13 million de proches aidants. La même année, près de la moitié des proches aidants d'aînés, soit 42%, ont affirmé ressentir du stress lié à leur responsabilité d'aidant. Pour le regroupement des aidants naturels du Québec, le temps est venu de penser à une autre stratégie nationale pour les proches aidants. Il faudrait une stratégie à l'image de ce qu'on a réussi à faire, par exemple, pour l'itinérance et la violence conjugale, mentionne Irène Demsiouk. À Québec, on dit réfléchir notamment à intégrer le statut de proche aidant dans la révision de la loi sur les normes du travail. Alexandre Lemaire, nouvel ambassadeur du Tour, Frédéric Duguay. C'est un texte de la presse.ca écrit par Chloé Côte-Noire. Alexandre Lemaire est atteint de la dystrophie de Duchenne. Pendant 3 ans, il a participé à une recherche qui l'a aidé à garder l'usage de ses jambes. Et puis, faute de financement et de résultats probants chez d'autres participants, la recherche fut abandonnée. Les jambes du garçon de 15 ans ont graduellement perdu leur force, le clouant dans un fauteuil roulant. C'est pour que d'autres jeunes puissent profiter des avancées de la recherche sur la dystrophie musculaire qu'Alexandre Lemaire a accepté d'être le nouvel ambassadeur du Tour cycliste Frédéric Duguay. Dans mon cas, la recherche a vraiment aidé pendant quelques années. Je souhaite à tous les gens qui sont atteints de dystrophie, explique ce jeune Sherbrookois en marge de la conférence de presse organisée pour le lancement de la 15e édition du Tour cycliste, prévue les 9, 10 et 11 août prochains. Et puis enfin, demande de résidence refusée à une famille américaine dont la famille est handicapée. Ça se passe au Manitoba. Une mère de 4 enfants, Carissa Warkentin, explique que des agents de l'immigration ont rejeté la demande de résidence permanente de sa famille parce que les coûts potentiels liés aux soins de santé de sa fille de 6 ans seraient trop élevés. Ils sont originaires du Colorado, les 6 membres de la famille Warkentin qui ont déménagé au Manitoba en 2013 afin d'exploiter une pourvoirie à Waterhen, une communauté à 275 km au nord-ouest de Winnipeg. Ils ne savaient pas à leur arrivée que la fillette était diagnostiquée d'épilepsie. Elle ne l'a été seulement qu'en 2014. Il s'avère que la mère de la petite fille insiste pour dire que sa fille n'engage aucun frais médicaux et ne reçoit aucun soin spécial et elle n'a pas besoin des services d'un orthophoniste dit ni d'un ergothérapeute ou d'un physiothérapeute. Elle n'est pas à l'hôpital avec des problèmes de santé. Les Warkentins, qui ont déjà investi plus de 600 000 $ dans leur entreprise grandissante au Manitoba, ont envoyé au gouvernement une lettre estampillée au sceau d'un notaire attestant que la famille s'occuperait de tous les coûts associés aux soins de l'enfant. Néanmoins, le gouvernement fédéral refuse de revenir sur sa décision. On avait envie d'aller faire un petit tour, hein, comme très souvent, puis de vous présenter peut-être des choses que vous connaissez moins et que vous pourriez avoir l'occasion de découvrir au cours de ces vacances, comme par exemple Exploramer, un musée dont j'ai bien envie d'entendre parler. Ça tombe bien, j'ai Sandra Gauthier, sa directrice générale, au téléphone. Bonjour Madame Gauthier.
Bonjour, bonjour.
Beau temps en Gaspésie?
Écoutez, Il n'y a que du beau temps ici, mur à mur, depuis le mois de juin. Même qu'on souhaite avoir de la pluie, nos agriculteurs s'inquiètent de plus en plus. Nos gazons sont un peu jaunasses parce qu'on manque de pluie, mais on nous en prévoit un tout petit peu cet après-midi et cette nuit.
Bon.
Sinon, les deux prochaines semaines sont aussi planifiées avec plein de soleil.
Eh bien, moi, je peux vous dire qu'à Montréal et dans la région, c'est vert. Hein? Alors ça, il n'y a pas de problème, c'est vert.
Mais oui, c'est ce
vert.
Qu'on entend.
Bon,
entend.
Allez.
En fait, le bonheur est ici.
Allez, présentez-nous Exploramer. Qu'est-ce que c'est? Où c'est? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qu'on peut y faire?
Bien, écoutez, Exploramer, on est situé sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie. Donc, c'est le côté nord de la Gaspésie. On est situé sur le quai, donc on a la mer... sur trois côtés de nous.
Oui.
Actuellement, je suis dehors et je suis justement sur le bord de la mer. Je ne sais pas si vous pouvez entendre les mouettes.
Oui, et justement, je voulais vous le dire, je trouve ça très désagréable. Évidemment, c'est non.
Sincèrement hein. Désolée.
Mais non, on adore ça. Faites-nous écouter les mouettes encore.
Et donc, Exploramer, en fait, on est un centre d'activité sur le milieu marin. Donc,
d'accord.
Nos activités sont toutes axées sur le milieu marin, mais d'un point de vue scientifique. Donc, on parle ici de vulgarisation de l'océanographie.
D'accord.
Donc, en termes d'activité, on a un parc aquarium où on présente les espèces marines du Saint-Laurent, donc le Saint-Laurent marin, donc le Saint-Laurent salé, estuaire et golfe. On a un bassin tactile, c'est une activité qui est très intéressante à faire. Donc, on peut toucher tous les animaux dans ce qu'on appelle, nous, les échinodermes, les crustacés, les mollusques, et les petits poissons aussi. Donc, avec c'est une activité animée avec un guide naturaliste.
D'accord. Et ça ne les dérange pas pour leur vie qu'on touche comme ça aux petits mollusques et tout ça? Ils ne risquent pas d'en mourir?
On donne des recommandations. Hein.
Ah,
On les manipule tout doucement, puis on fait laver les mains, on fait désinfecter les mains avant l'activité.
Bon, c'est
ça. Et puis nous aussi, nos biologistes ici s'assurent de faire une rotation pour éviter justement qu'un animal passe sa journée à se faire taponner. Comme
bien, à se faire taponner, c'est ça.
Bon. Donc, on assure une certaine rotation de nos espèces pour les préserver.
Mais oui, allez-y, excusez-moi.
Oui?
Non, c'est parce que je me demandais, on peut vraiment toucher un oursin?
Ben absolument, absolument.
Ça
on peut
pique
le prendre
pas?
Dans nos mains tout doucement.
C'est
ça
vrai?
Pas. Ça pique pas, non.
Ah bon?
Ça fait semblant de piquer, c'est tout.
Ah OK. Donc, c'est pas comme un hérisson de mer, comme on les appelle.
Oui, c'est la même chose, mais c'est pas très piquant.
Non, c'est ça. Bon.
Très piquant. Ensuite, on a une section muséale. On a deux expositions, en fait, qu'on présente à chaque année. En ce moment, on a une exposition qui traite des requins du Saint-Laurent. L'exposition s'appelle « Requins 100 millions de morts ». Et on a une exposition qui traite des travaux des chercheurs. Donc, comment fonctionne la recherche scientifique en mer et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, cette année, en 2017, comme recherche? C'est quoi les hypothèses de nos chercheurs? À quoi va servir leur recherche? Et pourquoi, initialement, on a choisi de faire une recherche sur une certaine problématique? Donc, c'est très actuel et c'est très vulgarisé. Donc,
oui,
même
comprends.
Si on n'est pas un fervent de la science, l'information, elle est donnée en fonction de pouvoir faire en sorte que tout le monde comprenne, les enfants comme les plus grands.
Bon, je voudrais qu'on revienne sur les requins parce que si j'ai bien entendu le titre, vous faites partie de ceux qui disent, écoutez, oui, c'est vrai que les requins, ça peut tuer, mais l'homme en a tué combien versus combien d'hommes ont tué les requins? C'est à peu près ça?
Bon, oui, c'est ça, c'est exactement ça. On dit qu'à chaque année, on dénombre à peu près une douzaine de mortalités d'hommes par les requins versus 100 millions de requins sont abattus, sont tués chaque année par l'homme.
Oui.
C'est pas toujours de l'aileronnage. Il y a de différentes causes. Parfois, c'est des accidents de pêche. Parfois, c'est à cause de la pollution dans certains secteurs du globe. Mais effectivement, est-ce que le requin est menaçant ou est-ce que le requin est menacé?
Oui.
On donne pas de réponse. En fait, c'est à chaque visiteur de faire sa propre conclusion avec les données que l'on offre. Mais voilà, on tente, nous, de rester le plus objectif possible et d'éviter éviter de teinter la réflexion des gens.
Oui, oui, de toute façon, on a tous déjà vu des reportages. Hein. On sait que malheureusement, l'aileron du requin est très prisé dans certaines
Exactement.
Régions du globe. Et puis voilà, mais vous avez raison, laissons donc les gens penser ce qu'ils en veulent. Hein. Bon, je voudrais à tout prix qu'on parle d'accessibilité, s'il vous plaît, Sandra Gauthier. Alors, tout cela est parfaitement accessible aux personnes, par exemple, qui sont à mobilité réduite?
Exactement. Bon. Le parc aquarium et le musée le sont. On a bien sûr d'autres activités. On a un bateau où on fait des excursions en mer et on a une activité qu'on fait sur les cailles à marée basse. Ces activités-là sont plus difficilement accessibles, quoique pas impossibles non plus. Là.
D'accord.
On a déjà amené des groupes chez nous de personnes handicapées et on arrivait à faire quand même
Des performances, je vous en prie. D'accord.
Voilà.
Et dites donc, on peut toucher, mais est-ce qu'on peut manger aussi?
On peut manger sur place. On a un restaurant sur place. Et Explorama est aussi l'initiateur d'un programme qui s'appelle Fourchette Bleue.
Oui.
Fourchette Bleue, en fait, c'est un programme, c'est une certification qui permet de mettre un sceau de développement durable, de pêcherie durable sur les espèces marines d'ici.
Mm-hmm.
Donc, il y a une activité qui est dédiée à ça, ici à l'intérieur du musée, une activité qui s'appelle Oser goûter. Donc, on fait la promotion des espèces qu'on connaît moins du Saint-Laurent,
mais
qu'on aurait tout avantage à consommer davantage.
Ah, ben c'est formidable. Écoutez, je remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Une dernière chose, est-ce qu'il faut réserver? Si oui, comment? Et est-ce qu'il faut préciser quand on est une personne à mobilité réduite?
Pour la visite du musée, du parc aquarium puis de Oser goûter, c'est pas nécessaire de réserver. Donc,
d'accord,
vous pouvez vous présenter. On est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, de 9h à 17h.
Okay.
Si on souhaite faire une activité de cueillette de poissons ou une excursion en mer, à ce moment-là, c'est préférable de réserver toujours un petit peu à l'avance.
Bon, c'est parfait. Alors, dernière chose que je vais vous demander, c'est de tourner votre téléphone vers l'océan pour qu'on puisse écouter les mouettes pendant quelques secondes.
Vous entendez?
Oui, on les a. C'est léger, mais quand même, c'est comme si on y était à Sainte-Anne-des-Monts. Merci beaucoup pour votre gentillesse, Sandra Gauthier. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Exploramer et que nous convions toutes les personnes qui nous écoutent, y compris celles qui sont à mobilité réduite ou même une personne non-voyante, parce que qui pourrait aussi toucher, par exemple, et goûter, bien sûr.
Très apprécié par les non-voyants.
Alors, si vous êtes en Gaspésie ou si vous comptez y aller prochainement, ne ratez pas Exploramer à Sainte-Anne-des-Monts. Merci, Sandra Gauthier. Bonne journée.
Un tout grand merci. Au revoir.
Au revoir.
Tu es alors une illusion d'optique, juste l'odeur de la passion chimique. Pour une sirène, à quoi bon? J'ai un avion à la maison, à réaction. Bas les pattes, fais demi-tour, joli tambour. Je porte un casque anti-amour sur les oreilles. Descends de ta licorne rose. Tu vas te casser quelque chose sur moi. Seul sur le tard et sur le tard, à résister à la torture, à la morsure, à laisser siffler les pétards, à protéger sous une armure mon petit cœur pur. Bel avenir si d'aventure typique, tu enjambais ma clôture électrique. J'ai passé l'âge de faire l'andouille, de toute façon tu repartirais en citrouille et en chaussons.
On l'aime bien, Albin de la Simone, ici sur les ondes de Canal M, où je vous rappelle que c'est Clotilde Sey qui vous accompagne. C'est le magazine Aime l'été et je suis rarement seule durant ce magazine. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore l'animer. Et là, je suis contente parce que je fais connaissance, elle est là en chair et en os, avec Sarah Rouleau. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Sarah, je rappelle que vous êtes responsable communication, marketing et événements spéciaux d'Inca Québec.
Oui.
Et que vous êtes là très régulièrement, une fois par semaine. Vous avez la gentillesse de nous offrir un sujet différent, bien sûr consacré surtout aux personnes non-voyantes, oui. Puisque comme chez nous, hein, c'est la vocation d'Inca Québec. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous présentez?
Oui, en fait, moi j'avais le goût de vous parler là, de notre nouveau programme qui est un camp d'immersion parce que il y a 8 jeunes aveugles québécois qui y sont cette semaine. Donc
d'accord.
J'avais le goût de vous parler là, de ce nouveau programme-là. Donc, c'est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans.
Mm-hmm.
Et ils vont une semaine au centre Lake Joe d'INCA qui se trouve dans la région de Muskoka en Ontario. Donc,
okay.
C'est au nord de Toronto. Et ils sont là pour apprendre l'anglais. Donc, le centre Lake Joe d'INCA est adapté à la déficience visuelle.
Oui.
Et nos jeunes du Québec sont allés là, se joindre aux campeurs anglophones là-bas pour améliorer leur anglais.
Une immersion.
Exactement.
Bon. Alors, ça, c'est donc, vous l'avez dit, c'est la région de Muskoka, en Ontario. C'est,
oui.
C'est où, ça?
C'est à 2 heures au nord de Toronto.
Okay.
Et nous, c'est ça, on avait déjà là, ce beau camp-là et on voulait aussi offrir de l'immersion aux jeunes aveugles. On sait que l'immersion, c'est de plus en plus populaire en général.
Oui.
Dans les camps, les parents aiment envoyer leurs enfants là-bas. On voulait offrir cette chance-là aux personnes aveugles, aux jeunes aveugles. On sait que ça peut aider, entre autres, pour l'employabilité.
Mm-hmm.
Un tiers des personnes aveugles seulement sont en emploi. Et être bilingue, c'est un gros atout ces temps-ci.
Bien sûr, pour tout le monde.
Oui,
hein?
Donc
absolument.
C'était un projet qu'on voulait mettre sur place en même temps de profiter de notre beau camp au Lake
Joe. Tout d'un coup, j'ai une question là, qui m'assaille. Dites-le-moi si vous n'êtes pas capable d'y répondre parce que je comprendrais. Mais il y a de plus en plus de jeunes qui réapprennent le braille maintenant, hein, donc en français. Ça
mm-hmm.
doit exister en anglais? Est-ce que c'est différent? Vous ne le savez pas.
Je ne pourrais pas vous dire.
Mais non,
ouais.
Parce que tout d'un coup, je me dis, tu sais, quand on parle d'immersion, est-ce que... Ou alors, façon, le braille, c'est par lettres. Alors, c'est possible aussi que ce soit finalement la même chose.
Oui, je me rappelle plus entre l'anglais et le français, mais il y a différents brailles.
Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, chère Sarah. On va revenir sur le camp parce que ça, vous pouvez bien m'en parler. Ils ne vont pas faire que de l'anglais.
Non, ils vont vraiment participer à une panoplie d'activités. Entre autres, depuis qu'ils sont arrivés, premièrement, ils ont pris l'avion. Donc, 5 d'entre eux ont pris l'avion. Donc,
bon.
Déjà là, ça faisait aussi partie là, de l'activité du voyage. La première soirée, bon, ils étaient un peu stressés de se retrouver là, parmi tous les anglophones,
ouais.
Mais ils ont eu beaucoup de plaisir, effectivement, parce qu'il y a plusieurs activités. Premièrement, le matin, chaque matin, ils ont choisi une activité qu'ils vont approfondir dans la semaine.
Uh-huh.
Donc, il y en a certains qui ont choisi théâtre et musique. Ils ont même monté une pièce de théâtre.
C'est
en
vrai.
3 jours, ils ont eu le temps de faire ça, une petite pièce. Il y en a d'autres qui ont choisi le ski nautique. Donc, à chaque jour, ils font un peu de ski nautique.
Oui.
Il y en a une qui, elle, a choisi de découvrir la nature. Donc, identifier les arbres, des choses comme ça.
Oui.
Donc, ça, c'est dès le matin, ils ont leur activité qu'ils approfondissent.
Uh-huh.
Ensuite, ils ont des cours d'anglais, bien entendu. Hein, c'est un cours d'immersion.
C'est sûr.
Et pendant ces cours-là, bon, ils apprennent des verbes, des vocabulaires, mais ils parlent aussi de leurs ressentis, ils écrivent et échangent. Et dans l'après-midi, ils font encore d'autres activités et là, ça change à chaque jour. Pour le moment, ils ont fait tube, ponton, du voilier, de la teinture sur T-shirt. Donc, c'est assez diversifié.
Bien sûr.
Et le soir, bon, il y a des feux de camp, il y a encore d'autres activités.
Oui, c'est ça. Ben oui. Il y en a qui viennent d'assez loin, parce qu'il ne faut pas penser que tout ce beau monde-là vient de Montréal. Vous avez des jeunes qui viennent de Kamouraska?
Oui, effectivement. Bien, déjà, au Lake Joe, en fait, c'est pour tous les jeunes du pays.
Okay.
Mais le camp d'immersion, nous, bon, on l'offrait aux francophones du Québec au
du
complet.
Du Québec au complet.
Puis justement, on a des jeunes d'un peu partout. Je pense qu'il y en a seulement un qui vient de Montréal.
Ah, d'accord.
Et il y a deux frères, c'est ça, qui viennent de Kamouraska, qui ont fait 4 heures avant de prendre l'avion. Donc, eux, ils étaient vraiment motivés.
Et les deux sont non-voyants?
Oui, exactement. Donc, on en a d'autres qui viennent de d'autres régions, mais c'est le fun, c'est ça. Eux, c'est deux frères qui étaient très motivés de faire le voyage. On a Odélie, elle, c'est la première fois qu'elle partait en camp et
oh là
même
là.
Qu'elle prenait l'avion. Puis, je pense même, tu sais, qu'elle qu'elle dormait ailleurs, là, ouais, quasiment. Ouais, donc ça, ouais. Elle, ça va être une super expérience.
Oui, c'est ça, parce que c'est pas seulement ces jeunes-là. Hein, il faut penser qu'ils sont non-voyants. Okay? Donc, c'est d'autant plus pas évident de sortir de son milieu naturel, oui. Hein, la famille, les amis, etc., pour être tout d'un coup, alors déjà en avion, mais en plus dans un camp avec des nouvelles personnes.
Oui.
C'est toute une expérience. Oui. Je suis sûre que ça doit les aider aussi au niveau, s'ils sont gênés, tu sais, que oui. Ça, à un moment donné, ça doit être une belle expérience aussi pour eux, pour les dégêner oui. Un peu.
Ce sont les objectifs du camp aussi, justement,
ah, c'est ça.
L'autonomie, l'indépendance. Même les parents, c'est bon pour eux de laisser aller leurs enfants, d'avoir confiance en ce qu'ils sont capables de faire, puis de les laisser aller. Les jeunes, ben, on sait que les camps, en général, c'est bon pour le développement des enfants. C'est bon, justement, pour avoir plus confiance,
oui.
Être plus à l'aise.
Oui.
Et aussi, bon, les habiletés sociales. Puis justement, là, le fait que la barrière de la langue, ils doivent encore plus faire un effort pour aller au-delà. Donc, c'est sûr qu'ils vont ressortir de cette semaine-là grandis. Puis c'est ce qu'on voulait. Puis aussi qu'ils apprennent, justement, qu'il y a le guts, là, comme on dit,
oui,
de
oui.
Voyager, puis ben, oui. de rencontrer d'autres mondes, mais aussi de se dépasser.
Oui,
on a
oui.
Parlé des activités, oui. C'est aussi des dépassements, là, de faire
je
du
comprends.
Ski nautique quand on a une déficience visuelle, mais ils sont capables de le faire, puis on voulait leur montrer.
Ils vont avoir des choses à raconter, capables. Ces mômes-là, quand ils vont rentrer.
Oui.
Ben, je dis ces mômes-là, non, attendez, ils sont jeunes. Rappelez-nous quel âge ils ont.
Ben là, le groupe qui sont partis, ils sont entre 13 et 17 ans, mais c'était
bien
ouvert un petit peu plus large, mais oui, donc ados.
C'est une première hein, pour un cas
oui,
d'avoir
c'est...
organisé ça. J'imagine que ce n'est pas une dernière.
Non.
Vous travaillez déjà sur d'autres projets?
Oui, donc c'était un projet pilote avec 8 jeunes, puis on espère grossir le nombre de jeunes qui y vont l'année prochaine, parce que vraiment, là, c'est une réussite. On peut déjà le dire là, avec le feedback, là, je cherchais un autre mot.
Non, c'est pas grave. Oui, oui, oui.
Le feedback des jeunes et tout. Puis oui, fait que on va continuer l'année prochaine, c'est certain.
Là, on pourrait dire la rétroaction, mais c'est pas beau.
Oui, feedback.
Oh, c'est mieux. J'aime mieux dire ça oui. Aussi. Alors, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, mais avant peut-être qu'on se quitte, à un moment donné, j'avais lu que on dit que l'isolement est une conséquence importante de la perte de vision.
Oui.
Comment vous expliquez ça? Pourquoi l'isolement? En quoi?
Bien, déjà, le fait que les activités soient souvent pas adaptées à l'école, les jeunes vont être exemptés des activités physiques et sociales parce que c'est pas adapté. Donc déjà, de cette façon-là, ils sont isolés, moins de contact avec les jeunes de leur âge, moins d'activités. Donc là, le camp, justement... Ça
ben
permet
oui.
de faire les activités. Ils ont plus peut-être aussi tendance à rester à la maison. C'est moins facile d'aller au-delà des autres. Puis c'est un peu ça aussi qu'on veut leur inculquer.
Ce qui veut dire que s'il n'y a pas une stimulation, peut-être que si ces enfants-là vivent avec une maladie dégénérative, peut-être que la dégénérescence arrive plus vite dans le temps. Ou est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou non, quand même
pas? Je crois que c'est de leur donner confiance
leur donner
en
confiance,
eux. Oui, c'est ça. Puis en ayant confiance ou en sachant, en voyant ce qu'ils sont capables de faire, ça donne le goût. Même chose pour les parents aussi, des fois, qui vont surprotéger. Bien, ça montre comme non, je peux les laisser aller, puis je vais les laisser explorer, rencontrer des gens, sortir. Puis souvent, moi, c'est ce que je dis aux gens en général qui veulent aider les personnes malvoyantes. Amenez-les, invitez-les.
Bien sûr.
Ils peuvent faire de tout dès qu'ils sont guidés.
Absolument,
oui.
Absolument. Merci oui. Beaucoup, Sarah. C'est toujours fort intéressant. J'ai hâte que vous reveniez pour nous dire qu'il va y en avoir d'autres et d'autres. Et
oui,
d'autres.
L'année prochaine, vous annoncez la nouvelle date.
D'accord.
Merci.
Bonne journée, Sarah Rouleau.
Suivez-les
merci.
Sur Facebook pour voir.
Aime l'été, la suite. Vous savez que j'ai un dada, si vous êtes des familiers de Canal M, vous savez que j'anime en saison régulière, c'est en reprise en ce moment, l'émission des livres plein les oreilles qui nous permet de rencontrer des personnes non-voyantes qui écoutent des bouquins, des auteurs qui viennent nous les présenter, ces livres qui existent en version adaptée, audio-adaptée, soit par le CAEB, soit au SQLA. Vous pouvez trouver tout ça d'Est en Ouest, ces dizaines et des dizaines de milliers de titres. Et donc, j'aime la littérature, puis je m'étais dit, oh, ben de temps en temps, je ferai aussi moi-même une petite chronique littéraire. Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter trois livres. très différent. D'abord, un portrait de la France profonde, teinté par un meurtre, mais attention, ne pensez pas que c'est un livre. Je dirais que c'est plus un portrait de société qu'un livre de policier, si vous voulez. Ça s'appelle « Trois jours et une vie ». C'est de Pierre Lemaître, « Trois jours et une vie ». Pierre Lemaître, c'est celui qui nous a donné le prix Goncourt « Au revoir, là-haut » en 2013. Je vais vous parler aussi d'un roman historique qui s'appelle « La petite peste et le chaboté » de Juliette Benzoni, B-E-N-Z-O-N-I. La petite peste, eh bien, c'est l'amie intime de la sœur de l'empereur. Et le chaboté, c'est l'empereur en personne, Napoléon, quoi. Et puis, je vais vous parler alors d'un vrai roman de société qui s'appelle « Ressources inhumaines » de Frédéric Viguier. Nous sommes dans les coulisses d'un grand magasin. Vous savez, c'est le genre d'histoire d'horreur qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, mais pas forcément sur nos grands écrans en couleur, mais ça existe. Alors, on commence tout de suite avec « Trois jours et une vie » de Pierre Lemaître. C'est un livre dérangeant. C'est, vous savez, le genre de livre qui nous met mal. C'est une histoire comme on en trouve dans certaines régions creuses de tous les pays du monde, là où la nature humaine ne s'encombre pas de sentiments inutiles. Il ne faut pas penser qu'il n'y a qu'en ville que la vie est difficile. Et ce qui donne lieu, dans ce roman, « Trois jours et une vie », ce qui donne lieu d'abord à l'assassinat d'un chien dans ce tout petit village, ça commence comme ça. Et puis ensuite, il est question d'une vengeance qui est issue d'un geste complètement inutile et surtout complètement impulsif, un geste posé presque par dépit, mais un geste qui cause la mort d'un enfant. Un enfant dont le corps sera caché de façon maladroite par son meurtrier Antoine, qui est un jeune meurtrier, un brave garçon qui a commis l'horreur et l'erreur surtout. Et c'est un jeune homme pétri de culpabilité qu'on va suivre page après page et dont on attend l'arrestation, mais quasiment comme une libération. Alors, est-ce qu'il sera libéré ou pas? Ah, ça, c'est à vous de le savoir. C'est à lire et à suivre. J'ai pour vous un petit extrait. Nous sommes en page 44. On n'a pas encore retrouvé le corps de l'enfant, si tant est qu'on le retrouve un jour. « Mais enfin, s'écria l'épicière, il ne s'est quand même pas volatilisé, cet enfant. » S'il avait traversé le quartier, on l'aurait vu. Allez savoir. Madame Desmettes continuait de fixer Antoine, mais elle donnait plutôt l'impression de regarder à travers lui et de prendre réellement conscience de ce qui était en train de se passer. Sa lèvre inférieure pendait, son regard était figé. Son accablement atteignit Antoine en plein cœur. Il pivota lentement et, sans même regarder Émilie, se dirigea vers chez lui. Avant d'ouvrir la porte, il se retourna. Il trouva à Madame Desmettes une curieuse ressemblance avec la femme de M. Préville qui échappait parfois à la vigilance de sa garde malade et qu'on retrouvait à garde dans la rue, à hurler après sa fille unique qui était morte depuis plus de 15 ans. À côté du spectacle de ce malheur, de cet accablement, la blondeur d'Émilie, sa fraîcheur, faisait un contraste douloureux. En entrant chez lui, Antoine ressentit un soulagement. Dans le salon, le sapin de Noël, tout en guirlandé, scintillait comme une enseigne de magasin. Il avait menti et on l'avait cru. Était-il tiré d'affaire pour autant? Je vous rappelle le titre, « Trois jours et une vie », signé Monsieur Lemaître, Pierre Lemaître. Et ben, c'est vraiment un livre à lire, une très très belle écriture. Personnellement, j'aime bien tout ce qu'on peut écrire sur Napoléon. Non pas que je sois très fascinée par l'homme, même pas du tout, ni par ce qu'il a entrepris militairement ou civilement, mais je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'attitude de Napoléon Bonaparte, dans le mystère qui l'entoure, dans cette résilience, par exemple, lorsqu'il se retrouve en exil, tout ça. Il y a quelque chose qui me fascine chez ce bonhomme-là. Alors, j'ai sur ma table de chevet en ce moment « La petite peste et le chaboté » de Julie Benzoni, dont je vous lis la quatrième de couverture. Lors de Permont, duchesse d'Abrantès par son mariage avec le général Junot, un des bras droits de Napoléon, est une figure incontournable de la vie parisienne sous l'Empire. Liée depuis l'enfance à la famille Bonaparte, elle est la dame d'honneur de Madame Mère, l'amie intime de Pauline, sœur de l'empereur, mais aussi l'ennemie jurée de Caroline, la reine de Naples, et la maîtresse de son mari. D'une grande générosité envers l'or, qu'il surnomme affectueusement la petite peste, Napoléon entretient avec elle des relations teintées de séduction et d'affection. Bon, je ne pense pas que ce soit de la grande littérature, je vous le dis tout de suite, mais c'est plutôt sympathique comme livre historique. Petit extrait. Elle n'en demandait pas tant, cette jeune Laure, que la vie semblait comblée. Elle avait épousé l'homme qu'elle aimait et dont elle avait 3 enfants, 2 filles et 1 garçon, né 3 semaines plus tôt, et elle faisait partie de la jeune cour impériale. Quand on avait emménagé à Paris, le vaste appartement de Madame Permont, qu'est Conti, était le lieu de ralliement des jeunes Bonaparte, avec un petit plus pour le second fils, Napoléon, un gamin maigre, orgueilleux et volontaire, frais et moulu de l'école militaire pour jeunes nobles de Brienne, qui était tombé amoureux de la très séduisante mère des enfants Permont, au point de vouloir l'épouser, ce dont les siens avaient beaucoup ri, mais pas longtemps. Voilà, alors La petite peste et le chat botté, signé Juliette Benzoni, B-E-N-Z-O-N-I. Et puis je finirai cette chronique littéraire avec un livre qui fait mal. Ça s'appelle Ressources inhumaines, c'est de Frédéric Viguier, on m'en a beaucoup parlé. De ce livre à l'émission, des livres plein les oreilles, il fallait bien que je le lise un jour. Et bien voilà, ce jour est arrivé. Nous sommes dans ce que les Français appellent un hypermarché. Nous en avons des tonnes hein, ici, des bannières qui vendent, oh, vous le savez, du tout, du rien, du vide aussi, de l'inutile, du nécessaire, souvent à bon prix. Allez, tiens, au hasard, par exemple, ça pourrait commencer par un W. Alors, dans cet univers de commerce au détail démesuré, il y a des égaux qui ne sont pas moins démesurés, qui doivent se tailler une place, quel que soit leur rang, du plus petit employé au gérant, en passant par les chefs de rayon. Tous les mauvais coups sont permis, toutes les bassesses sont autorisées pour monter un à un les barreaux de l'échelle salariale. Vous savez comment c'est ? On joue des coudes, mais on se joue des hommes et de leurs émotions. Quand je dis des hommes, je parle de l'être humain. Ces personnes deviennent comme de vulgaires balles de jonglerie, si je peux dire. Plus jamais vous ne rentrerez de la même façon, ça je vous le garantis, dans un magasin peuplé de ces associés, comme on appelle maintenant les vendeurs, après avoir lu ce livre dont je vous rappelle le nom, Ressources inhumaines, de Frédéric Viguier, V-I-G-U-I-E-R, dont voici un extrait. Ce premier entretien se déroula si bien que le chef du secteur textile lui proposa un contrat de travail de 15 jours à l'occasion de la fête des mères. Comme chaque année à la même période, le magasin organisait une importante opération commerciale. Le chef du secteur textile lui a dit « Cela nous permettra de vous former avant votre stage d'été et en plus vous serez payé. Cela vous permettra d'acheter un joli cadeau à votre mère car je suis sûr qu'elle doit être aussi gentille et aussi charmante que vous, non ?» Pardon. Elle lui a répondu que cela pouvait effectivement être une opportunité intéressante parce que sa mère était effectivement très gentille. Le chef du secteur textile lui a dit « On vous fera un courrier. En général, ça se passe très bien. Tout le monde sait que la formation sur le terrain est plus efficace que tous les grands discours théoriques. Je vais vous faire imprimer un courrier type. Vous le donnerez ou vous l'enverrez à qui vous voulez. Bon, allez, on va manger un morceau ?» Elle a débuté dans l'hypermarché un lundi 18 mai. En qualité de stagiaire secteur textile, et c'est cet homme, le chef du secteur textile, qui lui proposa dès le 6e jour de faire la tournée de la zone de chalandise, c'est-à-dire d'aller visiter les enseignes concurrentes. Le chef du secteur textile voulait évidemment connaître un peu mieux sa nouvelle stagiaire, il n'allait pas être déçu. Mais pour l'instant, elle faisait bonne figure, elle simulait l'émotion quand le chef du secteur textile la surprenait dans les rayons ou lorsqu'il l'invitait à boire un café, sorti d'une machine bruyante dans la salle de pause où se réunissait tous les cadres de l'hypermarché. Elle avait décidé de sourire un peu plus souvent et de faire semblant de s'intéresser aux autres. Avant d'arriver à les apprécier vraiment, c'était déjà bien qu'ils y croient. Elle s'entraînait sur eux, elle testait sa capacité à aimer. Elle profitait de ce travail pour mieux se connaître. Ce qui lui arrivait était inespéré, elle voulait rentabiliser ses 15 jours de stage. Il y avait quelques femmes parmi les cadres du magasin, elles étaient plus discrètes et semblaient envisager les petites nouvelles comme des futurs rivales, et les nouveaux-nouveaux, comme de braves garçons inoffensifs. Ressources inhumaines de Frédéric Viguier, c'est un livre à vous procurer à tout prix.
Pendant que l'hiver ouvre nos lèvres, tu tiens mes yeux comme un feu de grève. Je rêve des soirs où tu t'arranges. Je pense aux endroits où tu te changes. Quand tu t'en vas briser des records. Ici la nuit est un carnivore. Tu rends mes matins unanimes. Quand tu reviens comme dans les films.
L'accessibilité au logement, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur ici sur les ondes de Canal M. Et nous avons la bonne personne pour nous en parler, c'est Franck Bouchard, chargé de projet pour le groupe CDH, autrement dit le Conseil en développement de l'habitation. Bonjour Franck.
Bonjour madame.
Comment allez-vous? Oh madame, je me sens vieille tout d'un coup Franck, alors, ça n'a pas de bon sens.
Alors bonjour Clotilde.
Merci Franck. Alors Franck, vous étiez à l'extérieur de Montréal aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on fait cette entrevue par téléphone. Et on va parler ensemble. On sait que les personnes en situation de handicap, souvent pour se loger, c'est pas toujours facile pour quiconque, mais avec un handicap, c'est tout un défi. Hein.
Ça peut effectivement s'avérer un défi. C'est un défi, des fois, de trouver, de trouver un logement qui soit adapté, qui soit facilement adaptable à tout le monde. Ouais. Donc, effectivement, ça s'avère un défi pour nombre de personnes. Souvent, les gens peuvent passer plusieurs mois, des fois même, j'ai même vu des fois quelques années, avant de trouver un logement qui soit vraiment adéquat. Donc, c'est un défi qui est là, que les gens vivent, effectivement, assez souvent.
Mais est-ce que c'est une préoccupation pour le monde de la construction, l'aspect adaptabilité?
C'est tout le moins, à tout le moins, je pourrais pas parler pour l'ensemble du monde de la construction, mais à tout le moins, pour ce qui est du domaine dans lequel j'œuvre, moi j'œuvre dans le domaine du développement de logements sociaux, de logements communautaires, et oui, c'est une préoccupation qui est là. Nous, une préoccupation d'abord même de répondre aux besoins, parce que oui, on aide à la construction de logements, mais on essaie surtout de donner aux gens des logements qui soient abordables, convenables, et aussi adaptés à leurs besoins. Donc, on va travailler souvent en fonction des besoins que les personnes ou les groupes avec qui on va travailler, que les coopératives, par exemple, ou autres, c'est quoi un peu les besoins que leurs membres, leurs gens qui veulent aider. Et on va aussi travailler donc par rapport à des besoins d'adaptation, d'accessibilité. On travaille avec différents groupes comme ça.
Donc,
c'est une préoccupation chez nous, chez nous et dans l'ensemble, disons, du secteur du logement communautaire.
D'accord. Donc, c'est rassurant, puis ça ne l'est pas, quoi. Est-ce que vous me dites? Je suis rassurée de votre côté, mais d'un autre côté, je ne suis pas sûre que la préoccupation soit bien grande, bien, bien importante, quoi.
À tout le moins, si je regarde dans notre secteur, nous, le gouvernement nous finance évidemment, partie l'élaboration de logements. Bon. Et dans le contexte de ce financement-là, il y a une préoccupation qui est là, il y a des guides qui sont là, on doit répondre à des normes, en termes d'accessibilité, entre autres choses. En termes d'accessibilité, il y a des cibles quand même qui sont données. Je donne un exemple, si on va construire un immeuble, par exemple, à logement, un bloc appartement, là, si on peut dire avec ascenseur et tout, il y a quand même une obligation qui est faite que 100% des logements qui vont être construits soient d'abord accessibles avec un parcours sans obstacle.
Oui.
Puis également, que les logements soient facilement adaptables, sinon adaptés.
Oui.
Facilement adaptables dans le sens où ça nécessitera pas des modifications importantes au niveau des portes, des choses comme ça. Donc, tout est conçu dès le départ pour que ça puisse être facilement adaptable. Donc, à tout le moins, pour ça, je disais que dans le milieu, c'est une préoccupation, des bailleurs de fonds, c'est aussi une préoccupation de la Ville de Montréal. Nous, je travaille par rapport à développer des logements sur l'île de Montréal. Donc, la Ville de Montréal a un rôle là-dedans aussi. Donc, elle-même, elle va examiner aussi si, effectivement, les plans qui sont déposés par les architectes, est-ce qu'ils sont conformes à ces normes-là? Est-ce qu'on va répondre à toute la question aussi de l'accessibilité? Pour la Ville de Montréal, c'est une préoccupation aussi qui est là.
Ils ont des obligations, hein?
Ils ont des obligations.
Lesquelles?
Ils ont aussi des objectifs en termes de promouvoir l'accessibilité universelle. Donc, et effectivement, c'est une préoccupation qui est là du côté de développer vraiment des logements qui correspondent
aux accessibles.
En termes d'accessibilité accessible.
Mais quel type d'obligation, par exemple, à la Ville de Montréal?
La Ville de Montréal donne des obligations parce qu'elle est mandataire du programme de financement qui est un programme gouvernemental, là, mais qui est mandataire. Donc, on va regarder, par exemple, est-ce que les corridors correspondent à une bonne largeur pour que c'est facilement circulable par des fauteuils? Est-ce que le parcours à partir de la rue est-il vraiment sans obstacle? Est-ce qu'on peut entrer dans l'immeuble facilement? Si, par exemple, l'immeuble ne dispose pas d'ascenseur, est-ce qu'on s'assure qu'au moins que tous les logements du rez-de-chaussée le soient? Accessible avec un parcours sans obstacle. On va regarder vraiment des détails, dans le détail. Hein, est-ce que la largeur des pompes est convenable? Il y a toutes sortes d'éléments comme ça que la ville va regarder. Il y a des gens qui ont aussi le mandat à la ville vraiment de regarder sous l'angle de l'accessibilité les plans qui sont déposés. On voit quand même qu'il y a un souci de ce côté-là.
Oui, c'est ça. On a failli vous perdre, Franck. Ça, c'est parfois le petit souci avec les cellulaires. Hein. Mais écoutez, oui, exactement, Franck. Mais non, ne vous en faites pas. Bon, il va y avoir le projet de loi 121.
Effectivement.
De quoi s'agit-il?
Ce projet de loi vise au transfert de certains pouvoirs présentement du gouvernement du Québec vers la Ville de Montréal, vers certaines municipalités. Donc, entre autres, ce qui est intéressant peut-être pour l'avenir, c'est que le transfert du programme d'aide financière dont je parlais du gouvernement du Québec pour la construction des logements va être transféré à la Ville de Montréal. Donc, la gestion de ce programme-là ne se fera plus par le biais de la Société d'habitation du Québec, mais directement par la Ville de Montréal. Donc, est-ce que dans le contexte où la Ville de Montréal a des préoccupations en concernant l'accessibilité universelle, est-ce que dans le contexte futur du futur programme, en tout cas révisé, parce qu'il y a un souhait de la Ville de Montréal de réviser ce programme-là, une fois qu'ils vont l'avoir, qu'ils vont avoir le contrôle.
On espère que ça aura un impact.
Je
vous perds, Franck.
Je m'excuse. Alors, je disais que par rapport rapport à la ville de Montréal, on espère que le transfert de ces pouvoirs-là aura un impact peut-être
parfait
sur l'accessibilité.
Bon, ben écoutez, je vais vous laisser là-dessus parce que la communication devient vraiment très mauvaise et je ne voudrais pas que ça... Non, mais ce n'est pas grave, Franck, mais parce que j'imagine que vous aviez encore plein de choses à nous dire, vous.
Ben, en tout cas, j'allais un peu dans ce sens-là, mais bon. je terminerai en disant qu'il y a une préoccupation très nette du côté des logements communautaires. On va espérer que cette préoccupation-là aussi soit un jour partagée aussi par l'ensemble des constructeurs de logements privés. Ils doivent répondre aux normes du code de la construction, mais du côté, en tout cas, du milieu dans lequel je travaille, on a développé des pratiques qui vont au-delà de ce code-là, et peut-être que ce sera inspirant pour l'ensemble des constructeurs d'appartements qui sont privés.
On aime ça avec une conclusion optimiste comme ça. Allez, salut Franck et à bientôt en studio. Salut. Bye bye. Franck Savard.
Eu só quero um sol verdinho, pé de manga e de jasmim. Muita fita do bom fim aqui no meu jardim. Quero figa de marfim afastando o que é ruim. Respirar pirlim, pim, pim aqui no meu jardim. A chuva cai inundando o capim. Cachoeira e mar sem fim aqui no meu jardim. Quero um cheiro de alecrim, tua beleza de adorim, e te ouvir dizer que sim aqui no meu jardim.
Que diriez-vous de faire, ou du moins de suivre, un tour du monde pour la tolérance ce sont trois Catalans qui vont partir comme ça pour le bout du monde et que vous allez pouvoir suivre sur Internet. On parle de Claire, qui est séropositive depuis 30 ans, qui part avec ses deux fils, Alexandre, jeune trisomique de 20 ans, et Cyril, qui a 25 ans. Et c'est absolument un magnifique projet de voyage pour ces trois Espagnols catalans qui partent autour du monde. À eux trois, ils entament un projet de vie qui vise à changer le regard généralement porté sur la trisomie 21 et sur le VIH. Alors Claire va rencontrer des personnes qui vivent avec le VIH et elle en dressera des portraits. Ils se rendront aussi dans des orphelinats, notamment en Inde et au Sénégal, pour partager et offrir du temps, en espérant semer un peu de bonheur auprès des enfants victimes du sida. Tous trois devront gérer des défis personnels au cours de ce périple qui va commencer dès le mois de juillet 2018 à bord d'un 4x4 équipé d'une cellule qui sera leur unique foyer pendant un an et demi. Imaginez. Alors en attendant, ils alimentent le site pour apprendre à les connaître et pour relayer l'état des préparatifs et le moral de la troupe. Et si vous voulez les suivre, vous pouvez simplement composer le www.3catalansaubout du monde, comme ça se prononce, avec un S à catalan évidemment, 3catalansaubout du monde.com.
comme. Qui roule en collaboration avec l'Association des personnes vivant avec une surdité de Laval, la PVSL, ont fait en sorte que les activités du 375e de Montréal soient accessibles aux personnes sourdes et malentendantes grâce à la présence du service d'interprétariat LSQ ou oral, donc la langue des signes du Québec ou par oralité. Si vous souhaitez assister à un des spectacles du 375e, vous pouvez communiquer avec la Société des célébrations du 375e pour faire part du choix de l'activité et en même temps pour réserver un interprète. Alors, comment faire? www.375mtl.com/programmation. Sinon, un numéro de téléphone dans le 514, le 788 33 83. Aussi, l'Association Lavalloise pour la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l'autisme, leur préparation pour l'année, la programmation pour l'année 2017-18 est prête. Alors, il est temps de s'inscrire. On peut déposer son inscription à l'Alédia, au 73 boulevard Saint-Elzéar-Ouest. On peut aussi y aller par info@alédia, A-L-E-D-I-A, 1959. Pour s'inscrire donc au programme. C'était Clotilde Seille, qu'il cède la place à François Brodeur. Moi, je vous retrouve mardi pour Aime l'été.